Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va lire Luc 6, 39 à 40, s'il vous plaît. Luc 6, 39 à 40. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Voilà une bonne parole de Jésus. Seigneur, je te prie de m'aider à prêcher ce message et que personne n'y voit de l'amertume ou quoi que ce soit, mais simplement des phrases pour aider ceux qui ne comprennent pas bien et qui ont besoin de grandir encore. Merci Jésus. Amen. Alors évidemment, je ne m'adresse pas à tout le monde quand je prêche ce message. Comme quand vous lisez la Bible, des fois Jésus parle à des hypocrites. Si vous n'êtes pas un hypocrite, c'est pas à vous qui parle, d'accord? Bien. Je dis ça parce que ça n'a pas été long. Nous avons eu pendant les fêtes de Nouvel An, j'ai invité Morgan Priest et il est en photo sur Révélation Bible. Eh ben, ça n'a pas tardé, ça y est, les lettres commencent à venir, à tomber, et bon, voilà, c'est pas toujours très gentil ce qu'on vient me dire. Mon Dieu, et on n'a encore pas mis la vidéo, quand on va mettre la vidéo, ça va être encore, certainement encore pire. Voilà, aujourd'hui, je prie vraiment que Dieu nous éclaire. Devenir comme Jésus, qui est notre maître. Quand Jésus dit cela, est-ce que c'est juste pour nous faire plaisir, pour nous donner un peu d'espoir, pour nous dire voilà, vous pouvez évoluer au point de devenir comme moi? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut devenir comme lui? Eh bien, en fait, mes frères et sœurs, c'est la pure vérité. Si Jésus le dit, c'est vrai. Mais ça dépend de notre amour. Alors évidemment, sous le couvert de l'amour, je sais, vous allez me dire, oui, mais la doctrine, la Bible dit, oui, d'accord, la Bible dit. Mais mes frères et sœurs, il n'en demeure pas moins que seul l'amour restera. Et tout dépend donc de notre amour pour Jésus-Christ, de notre amour pour son avènement, de notre amour pour nos ennemis, de notre amour pour ceux qu'on ne comprend pas bien. Tout, en fait, dépend de notre amour. C'est toujours celui qui a le plus d'amour qui devient le plus grand aux yeux de Dieu, pas forcément aux yeux de tout le monde. Hein. D'ailleurs, on ne connaît pas Dieu parce qu'on a étudié la Bible, hein, ou parce qu'on juge qu'elle est un livre inspiré, ou parce qu'on a décrété que Dieu est comme ceci, ou que Dieu est comme cela. On ne connaît pas Dieu à cause de ça. En réalité, si on connaît Dieu de cette manière-là, c'est parce que on ne connaît que l'extérieur de Dieu. En vérité, on ne connaît personne, et surtout pas Dieu, si on ne vibre pas à l'unisson avec lui. Maintenant, attention, quand je parle de vibrer à l'unisson, c'est une expression pour dire être sur la même longueur d'onde, si vous voulez. C'est encore une expression moderne que vous n'allez pas trouver dans la Bible, mais on se comprend, on vit au 21e siècle où on sait qu'il y a des ondes, et voilà. Parce que, mes frères et sœurs, aimer, c'est quoi? C'est une fusion. Vous pouvez savoir des milliers de choses sur votre femme, ou sur votre mari, sur vos enfants, sur les gens, sur les chrétiens. Vous n'irez pas loin avec ce savoir. Il n'y a que l'amour qui va jusque à l'infini, qui fait que nous donnons notre vie pour eux, pour notre amour, pour notre femme, par amour pour notre femme, pour nos enfants, pour les gens, comme Jésus a fait, il a donné son amour même pour des gens qu'il crucifiait. L'amour nous permet d'entrer dans l'être, dans la personne que nous aimons, dans son cœur, dans sa volonté. Ce sont des vérités dont la plupart des gens connaissent ces choses-là, et c'est des mots pour eux. Ils disent « Je te donne mon cœur, tu es dans mon cœur, Jésus vit en moi, je suis en Christ. » Mais pour des milliers de gens qui ne sont que sentimentaux, ça reste juste des jolies déclarations saupoudrées de belles émotions, mais ce ne sont que des mots, pas une réalité. Comme je vous disais, j'ai rencontré un homme que beaucoup de chrétiens rejettent, Morgan Priest. Et c'est vrai que, bon, il est spécial, en apparence, il est très spécial, mais dans son cœur, c'est un chrétien, tout ce qu'il y a de plus normal. Il aime Jésus, le Fils de Dieu. J'ai parlé longuement avec lui, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, et puis il n'est pas d'accord avec tout ce que je dis non plus, et alors ? Ça n'empêche qu'on peut quand même s'aimer. Comment est-ce que je sais qu'il aime Jésus ? Parce que j'ai sondé son cœur avec amour. Et laissez-moi vous dire que le proverbe qui dit « l'amour est aveugle », c'est faux. C'est pas vrai. Ça voudrait dire que Dieu est aveugle. Si l'amour est aveugle, ça veut dire que Dieu est aveugle, parce que Dieu est amour. L'amour nous permet de voir les réalités en faisant fi de ce qui nous dépasse, de ce qu'on ne comprend pas. Bon, est-ce que l'amour... Il y a deux sortes... Vous savez, l'amour, le monde donne aussi un certain amour. C'est un amour, oui, mais il est imbibé d'avarice, il est imbibé d'égoïsme. C'est comme la paix que le monde donne, c'est pas la même chose que la paix que Jésus donne. L'amour que Jésus nous donne n'est ni avare ni égoïste. Et c'est cet amour-là que nous devons manifester. Tu n'es pas comme mon ego, je te rejette. Ben, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Quand on aime, on peut ne pas être d'accord à 100% avec ce qu'on aime. Moi, j'aime beaucoup Stéphane Royer. Mais il n'aime pas les panthères à l'eau. C'est une bêtise là, mais c'est pour faire comprendre. Et ben c'est pas pour ça que on ne mange pas à la même table. Quand il y a des panthères à l'eau à table, il n'en mange pas, puis c'est tout. Et puis il fait pas la tête. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? On peut quand même avoir de l'amour pour les gens, même s'ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes façons que nous. Ou s'ils nous choquent. Je suis certain que Si je pose la question, êtes-vous d'accord 100% avec Jésus? Je suis d'accord, je suis certain que les chrétiens vont dire amen, oui, je suis 100% d'accord avec Jésus. Mais est-ce qu'ils réfléchissent vraiment? Est-ce que c'est pas un peu superficiel sans réfléchir? Est-ce qu'ils font pas abstraction de beaucoup de faits? Très peu osent regarder certaines réalités en face. Des réalités qui sont choquantes. Par exemple, oui, je suis 100% d'accord avec Jésus qui a laissé ces milliers de femmes se faire violer par des musulmans fanatiques. Oui, je suis 100% d'accord avec Jésus qui a laissé Obama larguer 26 171 bombes, soit 62 par jour, 3 par heure, sur plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Oui, je suis 100% d'accord avec Jésus qui a laissé faire ça, parce que ça ne pourrait pas arriver si Jésus ne laissait pas faire. Je suis 100% d'accord avec Jésus. Oui, je suis 100% d'accord avec Jésus qui laisse des millions de malades dans les hôpitaux. Vous êtes à 100% d'accord? Alors, est-ce que vous êtes aussi à 100% d'accord avec quand il dit que si vous n'allez pas visiter les malades qui sont dans les hôpitaux, vous serez mis à sa gauche, puis vous serez maudit, et puis vous irez en enfer? Matthieu 25, 41, 46. Vous voyez, je ne dis pas que je suis 100% d'accord. Mais j'avoue une chose, c'est que je ne comprends pas tout de lui, de Jésus, de son plan. Et si je fais ce que je fais, c'est uniquement par amour pour lui, pour les gens, les vivants et les morts. Mais là aussi, on me cartonne, on me condamne. C'est par incompréhension. Et plus je suis dans l'action, mes frères et sœurs, plus je comprends Jésus et plus je l'aime. On ne peut pas aimer Jésus si on n'est pas dans l'action. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si vous n'êtes pas dans les œuvres, si vous n'êtes pas dans l'action, vous ne comprenez pas vraiment Jésus. Parce que agir, c'est aller sur le terrain, là où sont les perdus. Mais c'est aussi prier pour les perdus, pour les égarés, prier pour des gens qui ne sont pas comme nous. Pas pour qu'ils deviennent comme nous, mais pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Agir, c'est aussi prendre part financièrement pour l'établissement du royaume de Dieu, par l'évangélisation. Voyez, agir. Agir, c'est visiter. Peut-être pas des gens qui habitent à des milliers de kilomètres de nous, mais peut-être simplement déjà aller visiter nos voisins, s'enquérir, voir s'ils n'ont pas besoin d'aide, s'ils ne sont pas dans le besoin. Nos voisins, notre prochain. Agir, c'est faire tout ce que Jésus dit de faire, parce que, quoi qu'en disent les poètes fleurs bleues, l'amour, c'est l'action. Quand Jésus nous dit que ses disciples accomplis feront des choses plus grandes que lui, il ne ment pas. C'est ce qu'il veut. Et je vous garantis, mes frères et sœurs, que Jésus est fier quand il voit quelqu'un qui y arrive. Est-ce qu'un père va être furieux ou jaloux quand il voit son fils qui le dépasse ? Si un père est furieux parce qu'il voit que son fils le dépasse, alors ce n'est pas un vrai père. Oh Michel, mais on ne peut pas dépasser Dieu. Bon, bien sûr, bien sûr. Mais au moins être comme lui. Hein. Il dit, excusez-moi, mais c'est quand même Jésus qui le dit, qu'on doit être aussi parfait qu'il l'est, vous rendez compte, parfait comme Dieu. C'est visé très haut déjà ça. Hein. Alors bon, je ne dis pas que nous devons tout faire pour dépasser Dieu. Je dis juste que si Dieu vous a donné des qualités, eh bien personne ne peut vous empêcher de les développer, et surtout pas lui, c'est pas lui qui va vous empêcher de vous développer, de grandir, d'agir, de faire des choses qui sont hors normes. Jésus a fait des choses hors norme. Ça servait à quoi de marcher sur l'eau? Vous voyez, l'idéal à atteindre, c'est quoi? L'autre jour, je vous parlais, voilà, il faut, moi j'ai des modèles sur cette terre, comme Osborne, Raphaël, tout ça. C'est vrai. Mais bon, revenons à Morgan Priest. Je comprends pas le pourquoi de certaines de ses vidéos. Vraiment. Je lui ai dit, je comprends pas. Mais bon, je crois simplement que, comme moi et comme vous, il cherche à atteindre l'idéal. Et l'idéal, c'est quoi? C'est quoi votre modèle idéal? En tout cas, mon modèle idéal, c'est pas les chrétiens. Pardon. Ni même l'apôtre Paul. Ni même Pierre. Mon modèle idéal, c'est Jésus. Vous voulez ressembler à qui? Prenons juste le superficiel. Prenons juste l'apparence. Juste l'apparence. Rien que ça, déjà rien que ça. Parce que hein, l'apparence, on dit toujours, Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence. Et c'est vrai que l'homme a beaucoup tendance à regarder à l'apparence et il s'offusque ou il s'émerveille à cause de l'apparence. Est-ce que vous voulez ressembler apparemment aux Amish? Vous savez, ceux qui s'habillent comme les gens dans le feuilleton La Petite Maison dans la Prairie. C'est les chrétiens. Vous voulez ressembler aux moines qui s'habillent en robe et portent des sandalettes, même l'hiver? Vous voulez ressembler à Jean-Baptiste qui était vêtu de peau de bête, comme nos ancêtres les Gaulois? Vous voulez ressembler à Jésus qui s'habillait en robe longue, chic, très chic, à tel point que les soldats romains l'ont tiré au sort. C'était pas un pantalon, c'était une robe. Vous voulez ressembler aux chrétiens des églises françaises, pardon, qui s'habillent très souvent à la mode des chiens, vous vous rappelez les déchiens? Ou est-ce que vous voulez ressembler aux chrétiens américains qui s'habillent avec des vestes à carreaux jaunes et qui portent des pantalons rayés mauves? Vous allez dire, Michel, t'exagères. Ben oui, j'exagère un peu. Paul nous dit, grec avec les grecs, juif avec les juifs, faible avec les faibles. Un jour, j'étais à Miami et nous étions avec le maire de Miami et il nous avait remis la clé d'or de la ville à mon épouse et moi, et c'était une journée jolie, puis on a parlé du Seigneur, puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, il faut se faire grec avec les grecs, et il m'a dit, ouh, j'aimerais beaucoup vous voir grec avec les grecs, et puis on a tous bien rigolé. Ce que Dieu veut, c'est qu'en tout cas, on soit même faible avec les faibles, mais toujours décent, c'est ça, décent, voilà pour l'apparence, mais... Quand je travaillais avec Teen Challenge, on s'habillait comme les gens de la rue. Pourquoi? Parce qu'on évangélisait les gens de la rue. On n'allait pas aller auprès des punks, des drogués, habillés en costard-cravate. Quoique je ne juge pas les mormons qui le font, parce que eux au moins ils évangélisent. Pardon. Eux au moins ils évangélisent. On ne peut pas en dire autant des pentecôtistes. On n'en voit pas beaucoup dans la rue, des pentecôtistes. Hein. Par contre, les mormons, on en voit des flopés, eux, ils sont costume cravate, mais au moins, ils évangélisent. Alors donc, on s'habillait donc comme les gens de la rue pour aller évangéliser les gens de la rue, puis le dimanche, alors on se mettait en costume cravate pour aller dans les églises en emmenant, n'est-ce pas, des garçons et des filles qui s'étaient convertis dans nos cafés-bars, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on se mettait en costume cravate? Moi, j'avais 22, 23 ans, ça ne m'amusait pas, hein. Mais c'était parce qu'on savait bien que si on ne s'habillait pas comme ça, eh bien les bons chrétiens nous rejetteraient. Alors, est-ce que c'était de l'hypocrisie? Non. Ça dépend de qu'est-ce qu'on voulait. On voulait quoi? Ce qu'on voulait, c'était gagner des jeunes gens dans la rue et les placer dans les églises, parce que Teen Challenge n'était pas une église. Et on ne voulait pas évangéliser les gens et puis les laisser comme ça. On voulait les placer dans les églises, donc il fallait qu'on se fasse grec avec les grecs, juif avec les juifs, costume cravate avec les costumes cravates. Donc on jouait le jeu avec intelligence, sachant que eux n'étaient pas capables, on n'allait pas essayer de convaincre 300 personnes chaque dimanche que ma foi, voilà, on n'était pas en costume cravate parce que à cause d'eux, non, on jouait le jeu, puis c'est bon, c'était plus facile. Si on avait été dans les églises le dimanche matin habillés comme nous l'étions pour fréquenter les drogués, les punks dans la rue, mais les chrétiens passifs, inactifs, ces chrétiens qui vont juste poser leur derrière le dimanche dans l'église, ils n'auraient pas compris. Et ils nous auraient mal jugés et nous n'aurions pas eu leur aide pour continuer notre action dans les rues, c'est-à-dire on aurait eu personne qui priait pour nous dans les églises et personne qui nous soutenait financièrement. Donc, on faisait comme Jésus dit, serpent et colombe. Vous voyez? Vous comprenez? On faisait comme ça, non par hypocrisie, mais par amour pour Jésus et son œuvre, par amour pour les gens formatés dans les églises, et par amour pour les jeunes que nous voulions gagner à Jésus. Vous voyez, l'amour s'adapte, il cherche à comprendre. L'amour, ça nous fait mûrir, ça nous rend sages et ça nous rend prudents. Nous savions ce que nous voulions. Et nous faisions ce qu'il fallait faire pour avoir ce que nous voulions. Ça s'appelle de l'intelligence. Mais ce n'est pas venu tout seul, hein. C'est David Wilkerson qui nous l'a appris. Et puis Bill Williams qui nous le répétait encore, parce que des fois, on était un peu récalcitrant. Bill Williams était le directeur de Teen Challenge. Vous voyez, pour moi, le point d'arrivée, l'idéal à atteindre, ce n'est ni mon papa, ma maman, ni les gens des églises, je n'ai pas envie de leur ressembler, ni les bons pasteurs VRP habillés comme des vendeurs de bougies au porte-à-porte, je n'ai pas envie de leur ressembler, ni les critiqueurs qu'on trouve sur YouTube, avec un ministère de critiqueurs. Moi, je les adore, ceux-là. Ni même Osborne, ni même Raphaël, c'est pas ça mon modèle idéal. Mon modèle idéal, c'est Jésus. Vous savez, nos parents, nos pasteurs, les chrétiens des églises sont des moyens, des étapes, des portes, des éducateurs pour un certain temps. Mais il n'est écrit nulle part que je dois m'arrêter auprès du bon pasteur ou de mon papa chéri pour pousser mes racines et puis être exactement comme... Non, il est seulement écrit que à travers ces gens-là, je dois aller à Dieu. Et en cela, pour aller à Dieu, ben on fait des progrès, on marche de progrès en progrès. Je ne suis pas du tout le même homme que j'étais quand j'avais 4-5 ans de conversion. Je me souviens toujours d'un bon pasteur, je pourrais vous dire son nom, tout le, mais je ne veux pas le faire parce que moi je suis un gentil. Je me souviens toujours, il m'avait fait la morale un dimanche après une réunion d'évangélisation. Et j'avais prêché dans son église, avec mon costume cravate évidemment, et plusieurs personnes avaient été sauvées, et donc c'était bien pour lui, hein. Et c'était repenti, après ma prédication, quelques personnes avaient été guéries, je ne peux pas vous dire exactement combien, c'est très vieux, c'est une très vieille histoire, mais plusieurs avaient été guéries après la prière, et puis je m'attendais, après, il devait y avoir une agape, vous savez, le mot agape, ça veut dire amour, machin, tout ça, un repas d'amour avec ce pasteur et des membres de son église, donc on avait un repas, et je m'attendais à ce que le pasteur soit content, et ben pas du tout, il m'engueulait pendant tout le repas. Parce que j'avais dit, en prêchant, Jésus est maintenant votre maître et votre sauveur. Et il m'engueulait, mais il m'engueulait, hein. Il parlait pas gentiment, il m'engueulait. Parce que, à son avis, c'était faux ce que j'avais dit. J'aurais dû dire, Jésus est votre sauveur et maître. Parce qu'il n'est pas le maître de ceux qu'il n'a pas sauvés, et vous comprenez, et il me sortait des tas de versets bibliques pour me prouver que sa doctrine était juste et tout. Bonjour. Il m'a cassé. Sur le moment, il m'a cassé. Mais vraiment. J'étais découragé. Pourtant, on avait eu une belle réunion. Puis après, on est tous remontés dans le bus. Au revoir. Et dans le bus, eh ben, j'étais au fond. Puis j'ai réfléchi. Et là, j'ai pris des décisions. Je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas leur plaire. Quoi qu'on fasse, il y a toujours un truc. Ils trouvent toujours un truc qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes actifs. Vous savez, nous allions dans les rues, nous allions chercher les pêcheurs là où ils étaient. Eux, non. Je vais comparer ça à des vendeurs. Vous avez des gens qui sont des vendeurs qui vont chercher le client, hein, au porte-à-porte, ou qui sont là sur le marché, qui disent « Tapez, fouillez les ménagères, et là, et voyez mon machin, mon truc. » Ils vont chercher le vendeur, ils vont chercher l'acheteur. Puis vous avez le vendeur qui est dans son magasin, puis qui attend. Ben, tous ces bons pasteurs, ces bons chrétiens, ils attendent, n'est-ce pas, que les pêcheurs viennent dans leur truc, dans leur église, dans leur club, pour qu'ils puissent être sauvés. Nous, on était tout le contraire, on allait chercher le pêcheur, on était des actifs. Et eux, ben, à côté, ils paraissaient passifs, donc il fallait bien qu'ils nous trouvent un défaut. Était-ce conscient ou inconscient, je ne sais pas. En tout cas, j'en suis arrivé à cette conclusion. Ils trouvent toujours un truc qui ne va pas. Alors que faire ? Eh bien, j'ai décidé ce jour-là de chercher dans le cœur de Jésus les idées les plus sensées et les plus véridiques. Et j'ai décidé ce jour-là que je ne resterai pas éternellement auprès de ces vendeurs dans les magasins, c'est-à-dire auprès de ces églises. C'est vers Dieu que je vais chercher. C'est Dieu que je cherche. Par amour pour Dieu et aussi par amour pour ces pauvres gens religieux qui, comme moi d'ailleurs, ont encore beaucoup de progrès à faire. N'est-il pas dit dans Luc 2, 52 que Jésus croissait en sagesse? Bon, si lui avait besoin de croître en sagesse, à combien plus forte raison moi, non? Et vous? Alors croissons en sagesse. Dieu est toujours en action, Dieu bouge, il va de l'avant. Je dis même qu'il faut courir pour aller vers lui. Dans la carrière qui nous est ouverte, si vous voulez que j'emploie le mot biblique juste. L'amour, aimer les gens, même ceux qui sont différents, même ceux qui font des erreurs, même ceux qui ne comprennent pas comme nous. Il faut qu'on se préoccupe d'abord de savoir si nos pensées et nos actions ne vont pas salir les autres. Ça va être notre préoccupation. Vous savez, dans sa sagesse, Dieu il fait naître les enfants dans des familles d'adultes. Il ne les fait pas naître parmi un groupe d'enfants. Le problème actuellement, c'est que les adultes sont de moins en moins matures. C'est le problème de notre temps, ça. Alors les enfants en pâtissent. Et bien, c'est pareil dans les églises. C'est pareil dans les églises. Il y a beaucoup de pasteurs autoproclamés qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent pas leur Bible, qui sont immatures. Alors les nouveaux convertis ont du mal à trouver des chrétiens qui sont maîtres d'eux-mêmes. Alors ils en pâtissent. Je vais vous dire un secret. Dieu envoie les enfants sur la terre auprès des adultes, dans les familles d'adultes, pour que les adultes puissent être des modèles. Mais aussi, Dieu envoie les enfants dans des familles d'adultes pour que les adultes aient devant eux l'exemple de ce qu'ils doivent devenir. N'est-ce pas Jésus qui dit que nous devons redevenir comme des enfants? Alors ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un vrai gamin. Je rigole, je plaisante, je suis toujours le premier à faire une farce, un machin. Mais aussi, parfois, je suis sérieux, je suis profond, grave, comme un vieillard. Pourquoi? C'est pour varier. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour varier, non. La vérité, c'est que je veux que mon cœur reste éternellement comme un enfant. Toujours prêt à s'émerveiller, à être curieux, à aimer, à s'enthousiasmer. Mais je veux aussi que mon intelligence soit comme celle d'un vieillard qui a plein de sagesse parce qu'il a plein d'expérience. Alors voilà, quand vous me fréquentez, ben vous fréquentez les deux. Vous fréquentez un gosse et un vieillard. Voilà. Mais chacun d'eux a sa place, hein. Alors j'aime les gens, mais j'ai de la peine à aimer les gens qui ont un intellect puéril, bébête, et un cœur vieux et blasé. C'est le contraire qui devrait être la réalité. Malheureusement, il y a beaucoup d'adultes puérils et bébêtes, avec un cœur vieux et blasé. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi comme ça, qui ont un intellect puéril et bébête, et un cœur vieux et blasé, et qui savent tout, et qui veulent toujours empêcher les gens de tourner en rond, empêcher ceux qui veulent faire de faire. Vous voyez, il ne s'agit pas de ne pas devenir adulte, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais avec l'amour pour Dieu et avec l'amour pour les gens, on devient adulte tout en gardant une attitude d'enfant envers le ciel. On se montre obéissant, on se montre soumis, on se montre plein d'amour. Et Dieu, qui nous voit ainsi, ne nous abandonne pas. Il nous protège comme un père normal protège les enfants. Vous voyez, Dieu ne vous aidera que si vous êtes des enfants. Alors oui, je suis un enfant de 67 ans, bientôt, le 5 février. Et les anges de Dieu ne regardent pas à mon apparence, ni à mes rides, ni à mes cheveux blancs. Ils regardent mon cœur d'enfant, ils ne regardent pas le calendrier. Ils n'ont pas le même que moi, heureusement. Ils regardent à mon attitude d'enfant, à mon cœur d'enfant. Alors ils me protègent, ils m'aident. Des fois, je rencontre des jeunes gens qui ont une si grande confiance dans leur propre raisonnement, dans leur savoir, dans leur point de vue, qu'ils n'acceptent pas le moindre conseil, rien. Alors qu'est-ce que je fais ? Ben, je les aime, comme Jésus aima le jeune homme riche qui lui tournait le dos puis qui s'en allait, voilà, je les aime. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour eux ? C'est difficile, il faudra qu'ils apprennent. Et je sais qu'ils vont apprendre, mais avec des souffrances, et que, bon, voilà, il y a des grands problèmes qui les attendent. À l'heure actuelle, je suis triste parce que je sais qu'ils ne sont pas prêts à les affronter et qu'ils ne peuvent pas les résoudre correctement, mais bon. Tout ça parce que simplement, ils ont une mentalité d'adulte. Ils sont jeunes, mais ils ont une mentalité d'adulte. Au lieu d'être comme des enfants qui, conscients de leur ignorance, de leur faiblesse, de leur jeunesse, recherchent le conseil des vieux sages, ben non. Je sais. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on doit garder cette attitude d'enfant ? Ben, mes frères et sœurs, vous étonnez, c'est peut-être pas une doctrine, mais tant pis, je vous le dis quand même. Eh bien, je crois qu'on doit garder cette attitude d'enfant jusqu'à ce que le Saint-Esprit, puisse venir vraiment s'installer en nous. À ce moment-là, nous devenons véritablement des adultes selon Dieu. Seule cette sorte d'adulte-là est reconnue comme un adulte par Jésus et par ses anges. Les autres ne sont encore que des enfants récalcitrants. En haut, ils sont considérés comme des bébés. Et nous ne sommes pas appelés à rester éternellement des bébés. Nous devons devenir adultes. Des adultes qui prouvent qu'ils sont adultes en aimant les bébés, même s'ils sont récalcitrants. Dans ce monde, on entend parler souvent de bébés prématurés. Mais dans le monde de l'esprit, il y a beaucoup d'adultes prématurés. Ces adultes-là, ils souffrent. Alors, quelle est la solution ? Dieu connaît la solution. Et il essaie de nous la faire comprendre. La solution, c'est l'amour. Il y a des humains dégénérés qui battent leurs enfants. Et bien, dans l'Église, il y a aussi des vieux qui battent les enfants de Dieu. Tapent dessus tout le temps. Bon, je dis pas une bonne fessée de temps en temps, ça tue personne, mais bon. Mais quand ça devient de l'acharnement, j'ai connu ça étant jeune, l'acharnement de ces vieux grigots. C'est une pathologie, ils sont malades, il y a quelque chose qui ne joue pas. Aimer, voilà le secret. Aimer, pas bêtement, mais aimer comme Dieu. Attention, quand je dis ça, je vous dis d'aimer comme Dieu, le vrai Dieu, pas le Dieu de ces dingos sur YouTube qui diabolisent tout le monde, ce Dieu qui envoie tout le monde en enfer. C'est abominable. Si vous connaissez ça, mais c'est vraiment... c'est terrible. Dieu est pas comme ça. Dieu est amour, il est patient, il est gentil. Lui qui nous demande d'être amour, d'être patient, d'être gentil, il le serait pas, lui ? Et il y a une chanson d'autrefois qui disait « Et quand il montre un peu les dents, ce n'est jamais pour longtemps. » C'est vrai, quand Dieu de temps en temps se met un peu en colère contre nous, nous châtie, c'est pas pour longtemps. Il n'aime pas faire ça, comme on n'aime pas donner la correction à nos enfants, on aimerait mieux qu'ils comprennent autrement, mais des fois ils poussent un peu loin le bouchon, alors bon. Mais on n'aime pas, on se dit pas « Ah, chouette, je vais pouvoir le punir, Dieu n'est pas comme ça. » Alors aimons-nous les uns les autres pour être des disciples accomplis. L'amour, c'est la voie par excellence. Amen. Jésus, je te prie que vraiment ce que j'ai dit ne soit pas transformé, changé, manipulé par des... Je te demande, Seigneur, que chacun prenne et comprenne et se réjouisse de pouvoir faire encore des progrès, de pouvoir être intelligent, de pouvoir être aussi malléable entre tes mains et accepte de faire quelques compromis par amour. Je te demande, mon Dieu, que tu nous aides tous à marcher de progrès en progrès. Je sais que tu reviens bientôt. Et je vois tellement d'infantilisme dans l'Église. Mon Dieu, aie pitié de ton Église, aie pitié et permet que un grand nombre puisse écouter ce message et comprenne. Merci Jésus. Amen. Il y a un frère qui m'a téléphoné. Lui, au moins, il a eu le courage de téléphoner. Les autres, ils écrivent avec leur clavier, c'est tellement facile. Mais là, il m'a téléphoné, il me dit, ah, que j'ai vu la photo de Morgan Priest sur ton site. J'ai dit, ah, ben, ça y est, Michel est tombé. Et puis, je lui ai simplement rappelé que j'ai un ministère un peu spécial, c'est celui de tendre la main à ceux qui se font taper à gauche et à droite. Et ce frère-là, il a dit oui, c'est vrai, parce que lui-même, quand je l'ai rencontré et que je lui ai tendu la main, bah, il n'y avait pas grand monde qui lui faisait du bien. Au contraire, il lui tapait tous dessus. Voilà, il faut se souvenir de notre vie, il faut se souvenir de ce qu'on a vécu et puis faire des progrès, être de plus en plus gentil pour la gloire de Dieu. Amen. Allez, je m'arrête là parce que sinon je vais encore parler 2 heures. Dieu vous bénisse, au revoir, merci.